VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Abidjan accueille la 5e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. C'est une plateforme pour la promotion du planning familial en Afrique. Ce partenariat a pour but d'accélérer l'utilisation des services de planification familiale dans 9 pays d'Afrique francophone. Le thème de la réunion est « Promouvoir la contraception ». C'est garantir un meilleur avenir des jeunes. L'objectif principal du partenariat de Ouagadougou est d'atteindre au moins 2,2 millions d'utilisatrices additionnelles de méthodes de planification familiale dans les 9 pays concernés d'ici à 2020. La politique, une délégation de la CDAO conduite par la libérienne Hélène Johnson-Sirleaf, présidente en exercice de l'organisation régionale, est attendue ce mardi à Banjul pour tenter de convaincre Yahya Jammeh de rendre le pouvoir après sa décision de ne plus reconnaître sa défaite. Les présidents nigériens et ghanéens devraient aussi faire partie de la délégation. L'ancien ministre gambien des Affaires étrangères, Sida Diop, qui a servi dans le gouvernement de Yahya Jammeh, pense que ce dernier devrait saisir cette perche tendue pour une sortie honorable.
Il n'osera pas refuser l'arrivée de 4 chefs d'État chez lui. Il va l'exploiter pour avoir une sortie, parce que je crois que c'est la première réaction des Gambiens qui, en fin de compte, doutent la vérité, qui ne peut pas partir comme ça sans être jugé. Bon, peut-être on l'avait dit très tôt, mais c'est une chose qu'on ne pouvait pas cacher. Il y a une chose, c'est que s'il passe dans ces circonstances, il sauvera l'honneur et peut-être on envisagera une certaine situation spéciale pour lui, même si on allait le juger. Je crois que sa bonne foi aura joué beaucoup de rôle pour pacifier tous ceux qui veulent la vengeance.
Sidat Diop, ancien ministre gambien. En RDC, les évêques catholiques ont refusé la retransmission en direct des négociations qui reprennent ce mardi à Kinshasa entre les signataires de l'accord d'octobre et le rassemblement. Les discussions devraient aboutir à un compromis pour une transition pacifique avant la prochaine présidentielle. Eric Manirakiza.
La conférence épiscopale nationale du Congo veut que les négociateurs se concentrent sur l'essentiel, d'après l'abbé Donatien Cholet, porte-parole de la CENSO. Il répondait à la demande de la coalition de l'opposition derrière Étienne Tshisekedi, qui souhaitait une retransmission en direct des débats. Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS, a rétorqué que le rassemblement va donc exiger d'entamer directement les discussions en commission pour éviter le blocage. Les évêques catholiques congolais ont lancé ces négociations le 8 décembre à Kinshasa. Ils tentent d'arracher un accord politique inclusif pour permettre une transition qui rassure toutes les forces vives avant la fin du mandat du président Joseph Kabila le 20 décembre. Cette réunion, en principe, doit durer 3 jours et se terminer jeudi. Le rassemblement a déjà annoncé que M. Tshisekedi s'adressera à la nation peu après la clôture des travaux de ce dialogue, dit de la dernière chance.
Et le magazine de ce journal avec la suite à Yaoundé au Cameroun du 4e Salon international de l'agriculture et de l'industrie alimentaire. L'accent est mis sur la transformation du manioc avec l'objectif d'apporter une valeur ajoutée à plus de 200 millions de cette tubercule que l'Afrique, de ce tubercule que l'Afrique produit annuellement. Le reportage à Yaoundé de Moki Edwin Kinzeka, il est présenté par Lionel Gaïma.
300 femmes, membres de l'association de producteurs de manioc à Akone au Cameroun, conditionnent cette tubercule et ses feuilles sous différentes formes. Madame Florence Témé fait partie du groupe.
Nous faisons le whisky, les biscuits, les croquettes, les chips de manioc, les beignets de manioc, les gâteaux de manioc, de la peau et de la farine blanche. Il y a le foufou, les feuilles de manioc séchées, l'ongari, les saucissons de manioc, les beignets soufflés de manioc, les crêpes de manioc, de l'eau distillée à base de la farine de manioc. Même la peau là est utile. Je fais la nourriture et l'élevage avec, donc mes bêtes ne souffrent plus.
La coopérative est limitée par le manque d'équipements modernes, explique sa présidente Marie-Joseph Ndana.
Pour l'instant, nous travaillons encore manuellement. Nous n'avons pas les machines. Pour produire, nous avons nos propres champs. Il y a aussi d'autres personnes qui viennent vers nous, ceux qui ont les champs. Ils ne savent pas comment faire de ce manioc-là.
Le manioc africain est exporté en grande partie vers l'Amérique, la Thaïlande et le Brésil. Le Japon en importe 2 millions de tonnes par an. Il est temps pour l'Afrique de réduire l'exportation de cette tubercule et d'en augmenter sa transformation locale pour créer des emplois et de la valeur ajoutée, estime Stanley Yimgen, un responsable agricole de la République démocratique du Congo. Si la production de manioc reste traditionnelle, elle ne pourra pas saisir les opportunités qu'offre la transformation industrielle. Le salon tente de connecter les industriels et les petits producteurs. Samson Garassi, délégué de la République centrafricaine au Forum de Yaoundé, a noté que les pays africains n'ont pas les moyens techniques ou financiers pour équiper les communautés rurales à la transformation industrielle du manioc.
En Centrafrique, le manioc est l'alimentation de base. Plus de 90% de la population consomme le manioc. Le grand défi, c'est qu'il y a un problème réel de financement de l'agriculture et particulièrement le manioc. Nous attendons beaucoup plus de contributions de bailleurs de fonds pour nous permettre d'augmenter la production. Et la production moyenne en République centrafricaine est estimée à peu près à 800 000 tonnes. Ce n'est pas encore suffisant pour la population. Il y a des trucs de transformation, mais de manière artisanale et semi-artisanale. Il faudra passer à une étape de production industrielle comme on le voit dans d'autres pays.
Les participants de leur rencontre à Yaoundé veulent s'inspirer de l'exemple du Nigeria, qui produit 20% du manioc mondial et dont la production est passée de 33 millions de tonnes à 45 millions. Les pays ouest-africains ont nettement amélioré l'efficacité de la main-d'œuvre, le revenu et le niveau de vie grâce au manioc, a fait savoir l'ingénieur agronome Vincent Noble, coordinateur du programme de développement de l'agro-industrie française.
Le gros avantage de ce forum, c'est la possibilité d'apprendre d'un certain nombre de pays voisins, et notamment de l'Afrique de l'Ouest, des représentants de l'industrie du manioc du Ghana, du Nigeria et d'Afrique australe, qui vont pouvoir nous donner un aperçu de la façon dont eux ont réussi à transformer le manioc de façon industrielle, créer de la valeur ajoutée, créer des emplois. Pour l'instant, le développement du manioc en Afrique centrale reste essentiellement au niveau artisanal. Et donc, un des enjeux du forum, c'est d'essayer de lancer une dynamique qui va vers l'industrialisation du manioc.
Le manioc, un des principaux produits vivriers du continent africain, se cultive toute l'année et tolère les conditions climatiques extrêmes, d'où son rôle important dans la lutte contre les pénuries alimentaires.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Donald Trump s'apprête à nommer son secrétaire d'État, Sir Rex Tillerson, le patron du géant pétrolier ExxonMobil, qui est pressenti pour diriger la diplomatie américaine. Mais ses accointances avec Moscou font controverse au sein de la classe politique à Washington. Anna Besson.
Monsieur Tillerson, 64 ans, entretient d'étroites relations d'affaires avec Vladimir Poutine, qui lui a remis en 2013 la décoration russe de l'Ordre de l'Amitié. Cet homme, c'est-à-dire Poutine, est un voyou et un assassin. Je ne vois pas comment on peut être l'ami d'un ancien agent du KGB, a lancé le sénateur républicain John McCain sur CNN. Donc, M. Tillerson est loin de faire l'unanimité, y compris dans son camp. Le sénateur Marco Rubio a de son côté exprimé des réserves, tout comme son collègue Lindsey Graham. Et puis, le Congrès, à majorité républicaine, va bien enquêter sur les cyberattaques et les interférences russes dans l'élection américaine, accentuant la pression sur Moscou, alors même que Donald Trump tente de s'en rapprocher. Et il trouve ridicule les conclusions de la CIA, selon lesquelles le Kremlin aurait ainsi cherché à renforcer ses chances face à Hillary Clinton le 8 novembre dernier.
Et Vladimir Poutine se dit prêt à rencontrer Donald Trump à tout moment, même précise aujourd'hui dans un entretien accordé à des médias japonais qu'il serait préférable que le président élu des États-Unis forme d'abord son administration. Le président russe et son futur homologue américain se sont déjà entretenus par téléphone depuis l'élection de Trump, d'après l'agence Reuters. Leurs équipes ont fait savoir qu'ils s'étaient engagés à dialoguer et à travailler à une collaboration constructive. Et puis pour terminer, les forces syriennes pro-gouvernementales ont tué au moins 82 civils, dont des femmes et des enfants, dans les quartiers d'Alep Est qu'elles ont repris aux rebelles, a annoncé aujourd'hui l'ONU. Lors d'une conférence de presse à Genève, le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Rupert Colville, a indiqué que ces victimes, parmi lesquelles figuraient 11 femmes et 13 enfants, avaient été tuées probablement au cours des dernières 48 heures dans quatre différents quartiers d'Alep, la ville martyre du nord de la Syrie, que le régime de Damas est sur le point de ravir aux rebelles. Jean-Roger Billon à ce micro. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.